qu'on ne meurt plus en Afrique d'esclavage ou par les massacres de la Légion étrangère, mais par le dumping agricole organisé par l'Union européenne. Vous avez le paysan africain avec sa femme, ses enfants, 14 heures par jour, 15 heures par jour, sous un soleil brûlant, qui travaille jusqu'à l'épuisement de ses forces et qui n'a pas la moindre chance d'arriver à un minimum vital décent. Et donc, il n'y a aucune fatalité. Un enfant qui meurt de faim, maintenant où nous parlons, est assassiné.
C'est pas du vent. Deuxième partie, un enfant qui meurt de faim. Aujourd'hui, c'est un assassinat, selon Jean Ziegler, que l'on vient d'entendre. Une semaine après la conférence de Madrid qui a réuni plus de 100 pays pour réduire la faim dans le monde, quels enjeux se cachent derrière cette problématique? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos deux invités. Marcel Moisoyer, bonjour. Vous êtes ingénieur agronome, professeur d'agriculture comparée de développement durable à l'Institut National Agronomique Paris-Grignan. Vous êtes d'ailleurs le successeur de René Dumont. Et à vos côtés, Ambroise Mazal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de plaidoyer souveraineté alimentaire pour le Comité catholique contre la faim et pour le développement.
Alors messieurs, nous sommes plus de 6 milliards d'habitants sur cette terre et nous n'arrivons plus à nourrir ces 6 milliards d'habitants. Et en 2050, nous serons 9 milliards. Alors nous pourrions commencer par un état des lieux. Quelle est la situation mondiale face à l'alimentation quand on sait qu'à moins de 3 $ par jour, on se prive de nourriture?
Voilà, c'est ça. Donc il y en a 3 milliards sur 6,6 milliards qui se privent de nourriture, faute de moyens de paiement ou de moyens de produire. Là-dessus, il faut savoir qu'il y en a qui se privent tellement, 2 milliards, qui souffrent ce qu'on appelle de malnutrition. Mais ça veut dire des maladies graves et invalidantes, comme l'anémie, comme la cécité, comme la déficience mentale, qui sont dues à des carences en micronutriments, le fer, l'iode, les vitamines, etc. Et puis, plus grave, et ça c'est les statistiques d'avant de 2004, on va dire, pour simplifier, de la FAO, 862 millions qui alors souffrent d'insuffisance alimentaire en sucre, en graisse, en protéines, etc. Donc qui n'ont pas... Et ça, ça veut dire de la faim. Pas tous les jours, parce qu'ils en mourraient assez vite, mais une bonne partie de l'année. Donc les gens qui ont faim, c'est 862 millions. Ça s'est brusquement aggravé l'année dernière, parce qu'il y a eu une augmentation des prix qui a beaucoup nuit aux chômeurs et aux gens qui gagnent moins de 1 dollar dans les villes des quatre coins du monde, mais aussi aux paysans qui ont été tellement appauvris qu'ils n'arrivent même plus à avoir les outils, la surface, les animaux qui leur permettraient de produire ce qu'ils mangent. Et puis l'exode de la force de travail, donc il reste les femmes, les vieux et les enfants. Et donc ils sont devenus acheteurs nets de nourriture, dans des proportions énormes, quelquefois 20, 30, 40% suivant les régions du monde. Donc il ne faut pas croire qu'il n'y a que les gens des villes qui souffrent des... au prix agricole quand les prix explosent comme l'année dernière. Alors, les trois quarts de ces gens qui sont pauvres et qui ont faim et qui souffrent des différentes carences qu'on a dites, sont des ruraux parmi lesquels presque entièrement des paysans. Mais c'est aussi les fils et les filles de paysans, voire les familles entières de paysans qui ont été conduits au chômage dans les bidonvilles ou à des salaires scandaleux de moins de 1 dollar par jour. Donc c'est ça. Mais la pauvreté et la faim, elle commence dans les campagnes et elle se déverse ensuite, faute d'emploi, dans les bidonvilles des quatre coins du monde. Alors, en gros, c'est ça. 9 millions meurent de faim chaque année. Il faut le savoir, dont 6 millions d'enfants. Ziegler avait raison de crier tout à l'heure.
Alors, vous le disiez, hein, en avril dernier, il y a eu des émeutes de la faim qui ont secoué de nombreux pays. On s'en rappelle, l'Égypte, le Maroc, l'Indonésie, les Philippines, de nombreux pays d'Afrique. En Haïti, elles ont entraîné la chute du gouvernement. Elles ont fait de nombreux morts. Dans ce pays, le prix des produits alimentaires avait flambé en une semaine. Par exemple, le sac de riz était passé de 35 à 70 dollars. Jean-Pierre Boris s'était rendu sur place.
Voilà ce qui s'est passé. Le gouvernement a eu une entente avec les importateurs de riz. Nous, nous avons acheté à prix fort. Lorsque les acheteurs viennent, ils nous demandent un prix plus faible. Nous sommes obligés de le vendre à meilleur marché qu'auparavant.
Donc vous perdez de l'argent.
Ça veut dire vous perdez du pomme.
Oui, perdez du pomme. Si vous achetez un sac de riz...
Nous achetions le sac de riz à 2000... 200 gourdes. Maintenant, nous vendons le sac à bas prix, ce qui nous permet seulement de récolter 1500 gourdes.
Et vous allez pouvoir continuer cette activité dans ces conditions-là?
Bon,
nous allons enregistrer un déficit, mais nous devons continuer à vivre. C'est pourquoi nous allons nous efforcer de vendre.
Et ce riz-là que vous vendez, vous savez d'où il vient? S'il vient d'Haïti ou de l'étranger?
C'est du riz importé de différentes marques, de la marque Chaco, de la marque Lucky, du riz importé.
Sur le port de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, le cargo Anti 2 déchargeait fin avril plusieurs milliers de tonnes de riz américain. Ce riz arrive en vrac, plusieurs dizaines d'ouvriers sont chargés de le mettre dans des sacs. Il n'y a que trois importateurs dans le pays, un véritable monopole. Aucun des responsables de ces entreprises n'accepte de parler. La situation en Haïti est trop délicate. C'est que, comme le dit l'économiste Fritz Deshommes, la libéralisation a eu des effets pervers.
On a pu voir en Haïti que, sous prétexte de libéralisation, sous prétexte de favoriser la concurrence, on se retrouve dans des situations où, au contraire, vous avez très peu d'acteurs, même si apparemment, disons, le produit est libéralisation, que les frontières sont ouvertes. C'est le cas du riz, mais c'est également le cas de beaucoup d'autres produits, parce que le commerce n'est pas le seul facteur. Parce que vous pouvez bien avoir des frontières ouvertes, mais il y a des produits pour lesquels il y a un niveau financier nécessaire pour pouvoir importer ce produit. Et comme on est dans une économie où le secteur financier est un secteur très concentré, où le crédit se donne vraiment à un très petit groupe, d'ailleurs, et si vous voyez la structure même de propriété du capital financier, vous voyez que ce sont justement les grands de ce pays.
Ambroise Mazal, comment est-ce que vous réagissez à ce reportage en Haïti?
Moi, je crois que l'exemple d'Haïti est un très bon exemple pour illustrer le fait que le phénomène de la faim n'est absolument pas une catastrophe naturelle, mais bien le résultat de choix économiques et politiques. Et je crois que Haïti en est l'excellente illustration. Notamment, Haïti, jusque dans les années 70, était autosuffisant en riz, par exemple, puisqu'on parle du riz, et à partir des années 80, est devenue importatrice. Et cela sur trois facteurs, je crois, qui sont essentiels. C'est d'une part, Haïti a subi les programmes d'ajustement structurel que la Banque mondiale et le FMI lui ont imposé, qui a marqué un retrait de l'État dans l'accompagnement de la production et dans les services aux petits producteurs. D'autre part, la libéralisation d'Haïti. Haïti aujourd'hui a un niveau de protection de ses marchés agricoles un des plus faibles en Amérique latine, et ça a mis en concurrence les petits producteurs haïtiens avec notamment les producteurs américains des États-Unis. Et enfin, un facteur clé, c'est un sous-investissement dans l'agriculture de la part du gouvernement haïtien et un abandon de ces populations rurales qui fait que les populations rurales n'ont pas pu d'une part sortir de la pauvreté et encore moins nourrir les villes. Et aujourd'hui, effectivement, quand il y a eu une augmentation des prix sur les cours mondiaux dans les matières premières agricoles, Haïti, qui est devenue donc importatrice nette en denrées agricoles, a subi de plein fouet cette augmentation des prix. Mmh. Et c'est évidemment les populations les plus vulnérables qui en subissent les effets les plus durs.
Alors moi, Marcel Mazoyer, j'aimerais, pour comprendre comment on en est arrivé à cette situation, je voudrais revenir à ce livre que vous aviez coécrit à l'époque avec Laurence Roudard sur la fracture alimentaire mondiale, où vous nous expliquiez que l'agriculture que nous avons développée ne permet plus de nourrir l'humanité et crée paradoxalement de la faim et de la pauvreté. Alors de quelle fracture s'agit-il?
La fracture, c'est ce qu'on a dit sur la situation alimentaire. Qu'il y a 2 milliards de gens qui souffrent de maladies dues à des malnutritions et qu'il y en a 862 millions, si on veut être exact, et un peu plus dans l'année dernière, qui souffrent franchement de la faim, et 9 millions qui en meurent. Alors, la fracture, elle est aussi agricole, en ce sens que effectivement, il faut savoir que les trois quarts de ces gens-là sont des paysans. Et si on essaye de voir comment et pourquoi les trois quarts des paysans qui devraient se nourrir eux-mêmes n'y arrivent pas, ben, c'est quand même assez simple. Il y a 1,340 milliard d'actifs agricoles. C'est la moitié de la population agricole totale, vieillards et enfants compris. Mais pour ça, il y a 28 millions de tracteurs au nord. Aux États-Unis, en Europe et quelques pays, mais aussi au sud. Sur la frontière amazonienne, c'est des tracteurs encore plus gros qu'en France et peut-être même qu'aux États-Unis. Et on a des gens là, sur la frontière indonésienne, pareil, et puis demain au Congo aussi. Autrement dit, il y a une agriculture capitaliste délocalisée qui a repris à son compte toutes les avancées techniques de l'agriculture du Nord, mais aussi les avancées techniques de l'agriculture du Sud, de la Révolution verte en Asie du Sud-Est. Et donc ils sont aussi bien équipés, ils sont aussi bien équipés que le mieux équipé des agriculteurs familiaux du Nord. Et ils sont mieux équipés que le plus mieux équipé des agriculteurs familiaux du Sud, ils ont les mêmes protocoles techniques, les mêmes semences, etc. Donc ils ont la même productivité. Mais comme ils payent leurs ouvriers tracteuristes avec un lance-pierre, ils ont des coûts de production qui sont grosso modo la moitié du coût de production des agriculteurs européens, les deux tiers du coût de production des Américains, qui ont inventé pour se protéger, voire pour garder leur part de marché s'agissant des États-Unis, qui ont inventé les subventions, etc. Mais le coût de production en question, il est 4, 5, 6 fois inférieur au coût de production minimum que pourrait supporter un paysan d'Afrique, un hectare, une tonne de production, ou d'Asie, ou d'Amérique latine. Autrement dit, on est aujourd'hui devant un marché mondial soi-disant libéralisé, mais qui est de toute façon totalement distordu par les inégalités d'équipement et de productivité, et par-dessus le marché, par les inégalités de salaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toutes les agricultures familiales, du Nord comme du Sud, qui sont menacées par cette délocalisation de la révolution agricole et de la révolution verte. Alors, l'erreur, je dirais, de l'Union européenne, puisque si vous voulez qu'on en parle, le dire, c'est d'avoir joué le jeu que proposaient les Américains, c'est-à-dire au lieu de continuer de se protéger autrefois contre les Américains et aujourd'hui contre certaines agricultures hautement capitalistiques délocalisées, c'est d'avoir accepté de jouer le jeu des subventions. Moyennant quoi, ils sont un petit peu complices du libre-échange imposé aux autres, qui alors, eux, sont victimes sur toute la ligne, parce qu'ils ont les bas prix et ils n'ont qu'un moyen d'avoir des subventions significatives.
Very suffering in the streets, in the streets. Our leaders say, let it be, let it be. We the people don't agree. For this suffering, there is no need. They'll wait until there's a revolution, revolution everywhere. Burning of property, more homeless people lying in the streets.
We win.
to win dans C'est pas du vent sur RFI. Comment nourrir tous les humains de la planète? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui avec nos invités. Ambroise Mazal du Comité catholique contre la faim et pour le développement et Marcel Mazoyer, ingénieur agronome. Alors l'Éthiopie, messieurs, est l'un des pays d'Afrique régulièrement touché par la famine. On se souvient des images des années 80 et actuellement, selon l'Organisation des Nations Unies, 75 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition en Éthiopie. Il y aurait besoin d'une aide alimentaire d'urgence. C'est un reportage de Virginie Gomez.
Ce n'est pas comme dans les années 80, une famine qui saute aux yeux. Au nord, au sud, les champs verdois, un paysage de cartes postales qui masque l'ampleur de l'insécurité alimentaire. Selon les autorités éthiopiennes et les Nations Unies, l'heure est grave, les stocks de nourriture sont au plus bas. Mitiku Kassa est secrétaire d'État en charge de la sécurité alimentaire au ministère de l'Agriculture éthiopien.
Nous ressentons la raréfaction des ressources financières internationales en raison de la limitation de ces ressources. Les rations ont été réduites d'un tiers. L'insécurité alimentaire généralisée, la prévalence de la malnutrition aiguë, le manque de pâture et d'eau pour le bétail et les maladies liées à la sécheresse ont aggravé cette situation. Nous avons révisé le nombre de personnes ayant besoin d'assistance alimentaire et non alimentaire de 4,6 millions à 6,4 millions.
L'Éthiopie a besoin de 265 millions de dollars. À plusieurs reprises, le gouvernement éthiopien a accusé les Nations Unies d'exagération, mais la polémique des chiffres semble désormais dépassée. La hausse des prix alimentaires a frappé de plein fouet le pays. La crise financière risque à présent d'empêcher la mobilisation des ressources nécessaires à la lutte contre la famine.
Alors, des réactions à ce que vous venez d'entendre ?
Marcel Mazoyer, vous étiez fâché là en entendant.
Oui, j'étais fâché parce que j'étais en Éthiopie, je ne sais plus très bien en quelle année, ça devait être 2002 ou 2003, à la demande de l'ambassade de France. Et la récolte des paysans éthiopiens en blé, en teff et autres céréales locales était très très bonne. Et il y avait un prix de campagne qui avait été annoncé par le gouvernement qui était de l'ordre de 100 francs. De l'époque français par quintal de céréales, par 100 kilos, et les ONG américaines, le gouvernement américain continuait de faire distribuer en masse, en pleine période de récolte, alors qu'il n'y avait pas de pénurie ni de rien, une aide alimentaire qui se distribuait à, non pas 100 francs, mais à 25 ou 30 francs. Et d'où la ruine massive par l'aide alimentaire, qui n'est plus une aide d'urgence, mais qui se perpétue comme une espèce de machine à fabriquer un débouché pour l'avenir. Et les paysans se sont retrouvés incapables de payer leurs dettes, incapables de payer l'impôt, donc massivement embarqués dans les bidonvilles, etc. Et alors, après et aujourd'hui, ils sont cueillis par la hausse des prix et ils ne peuvent pas payer. Mais on commence d'abord par les rendre incapables de produire pour en faire des clients peu ou pas solvables qui, eux, souffrent de toutes les fluctuations de prix. Et c'était d'autant plus révoltant que tout le monde savait. L'Union européenne avait quand même, à cette époque-là, accepté d'arrêter ses distributions d'aide alimentaire, on va dire, à prix cassé.
Alors, Ambroise Mazal, vous avez participé à la conférence de Madrid dont l'objectif était de créer un partenariat mondial pour l'agriculture. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose.
C'était la semaine dernière. Hein,
c'était la semaine dernière, le 26-27 janvier. Et cette conférence avait deux objectifs, donc qui étaient sous l'égide des Nations Unies et du gouvernement espagnol. Donc un des objectifs, c'était de faire le point sur les engagements que la communauté internationale avait pris lors du sommet de Rome en juin 2008, d'une part, et d'autre part, de lancer un partenariat mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire pour réunir l'ensemble des acteurs et repenser un petit peu l'organisation du système agricole mondial. Et sur ces deux points, c'est très décevant. C'est-à-dire que ce qu'on a constaté, c'est que d'une part, le nombre de personnes qui souffraient de la faim avait augmenté depuis Rome. Et c'est aujourd'hui 963 millions, donc presque une personne sur six dans le monde qui souffre durablement de la faim. Dans le même temps, les promesses qui avaient été faites à Rome n'ont pas été tenues, puisque sur les 22 milliards annoncés, seulement 2 milliards ont été annoncés.
C'est un
échec. Et la communauté internationale ne met pas les moyens. Alors c'est évidemment encore plus choquant quand on a vu les milliards dépensés pour relever les banques, et dans le même temps, rien n'a été en direction des plus affamés.
Donc... Alors Marcel Mazoyer, qu'est-ce qu'il faudrait faire quand vous entendez que cette réunion de Madrid, par exemple, a été un échec? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour assurer la sécurité alimentaire mondiale? Enfin, s'il y avait une recette miracle,
bon,
je pense
d'abord,
qu'on
l'appliquerait, les prix agricoles ont rebaissé, et donc les causes de la surenchère sur la crise alimentaire qui a eu lieu l'année dernière, mais qui touchait les consommateurs acheteurs nets, hein, sont en train de s'estomper. Mais ce qu'il faut surtout, c'est empêcher que, à l'avenir, on se retrouve devant une situation. La crise alimentaire, c'est pas une question de production. Le monde peut produire le double que ce qu'il produit. Il y a la terre pour ça, il y a les techniques durables pour ça. Faut arrêter de raconter que c'est la terre qui est trop petite, etc. C'est simplement la demande solvable qui est inférieure. C'est-à-dire que les besoins sont supérieurs de plus de 30% à la demande solvable. La demande solvable, le marché, il équilibre l'offre et la demande solvable. Il équilibre pas l'offre et les besoins. Et en matière alimentaire, c'est ça qui fait la différence fondamentale entre marché alimentaire et marché des chapeaux et des Mercedes. Bon, les besoins de chapeaux, la différence entre la demande solvable et les besoins objectifs de chapeaux, je sais pas, de bagnoles non plus, mais d'alimentation, oui. Parce qu'il faut 2900 calories par personne ingéré et par jour, diversifié pour qu'on souffre ni de malnutrition ni de la faim. Il en faut 2150 à 2400 suivant la structure de la population pour ne pas souffrir de la faim. Ça, c'est les besoins. 2900 pour qu'il n'y ait plus de malnutrition, etc. Et ça supposerait que la production mondiale augmente de environ 30-33%. Très bien. Alors, pour ça, et est-ce qu'on peut l'augmenter ou est-ce qu'il suffirait de l'augmenter là où on produit le plus puissamment et avec les coûts les plus bas? Non. Non, absolument pas. Parce que vous produisez plus dans l'agriculture capitaliste délocalisée ou même en Amérique du Nord ou même en Europe. De toute façon, ça change pas. Ça ne fait qu'aggraver la situation des paysans pauvres des quatre coins du monde qui se transforment en chômeurs et en salariés mal payés. Donc c'est bien les pauvres, à commencer par les paysans, qui doivent produire leur nourriture. Personne ne la produira pour eux. 30% de production en plus, alors que l'aide alimentaire, même quand elle est bien utilisée, elle ne dépasse pas 1%. L'aide par l'argent, c'est insensé. L'aide publique au développement, c'est 100 milliards de dollars. Et la quantité d'argent qu'il faudrait aux pauvres pour se nourrir correctement chaque année, c'est 2000 à 3000 milliards par an. Donc il faut reconstruire l'agriculture, le pouvoir d'achat des paysans pauvres des quatre coins du monde, d'où la nécessité d'une politique agricole et alimentaire sérieuse et non pas de livrer l'agriculture et l'alimentation au yo-yo du marché.
Merci Marcel Mazoyer, merci à vous deux.
Merci
pour tous ces commentaires.
Et puis ben, vous reviendrez dans cette émission, parce qu'évidemment on a bien compris qu'en 27 minutes on ne résout pas le problème de la faim dans le monde.
C'est pas du vent.
Et comme chaque mardi, nous terminons cette émission avec vous, Serge Auru, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de WWF France, le Fonds Mondial pour la Nature, et aujourd'hui, vous êtes dans le sujet du jour, puisque vous nous racontez l'histoire du riz qui a beaucoup d'enfants.
Anne-Cécile et Arnaud, vous connaissez le riz qui a beaucoup d'enfants ?
Non.
Le riz qui a beaucoup d'enfants est une formidable invention agricole que les malgaches traduisent poétiquement par marouanaka. Son inventeur, le père jésuite Henri de Lolanier, l'a nommé « système de riziculture intensive ». Soit le RSI, car la production peut atteindre 15 tonnes à l'hectare sans produits chimiques. Henri de Lolanier de Sainte-Croix, né dans le Poitou en 1920, ingénieur agronome devenu prêtre, était un géant paisible, une encyclopédie vivante, un gargantua dévorant livres et plats de riz, un paysan travaillant inlassablement dans les rizières et au changement de mentalité de l'être humain. Décédé en 1995, à l'âge de 75 ans, cet homme est aujourd'hui légende vivante à Madagascar et dans la riziculture. Le riz est la nourriture de base de plus de 3 milliards d'humains. Il peut être blanc, brun, jaune, violet, cultivé, sauvage. C'est un trésor de la nature. Et depuis longtemps, les riziculteurs du monde entier abreuvent leurs rizières d'eau, d'engrais et hélas de pesticides. C'est en 1982, lors d'une sécheresse à Madagascar, que Henri de Loulanier découvrit cette technique révolutionnaire. C'est fortuitement et dans l'urgence qu'il risqua un repiquage précoce et accéléré du riz à Antsirabe. Ainsi, au lieu de rester un mois en pépinière, les jeunes pousses n'y restèrent que 15 jours. Ce qui aurait pu être un échec se révéla fort efficace. La production avait doublé. Henri de Loulanier, ce travailleur visionnaire, modeste et pragmatique, qui sillonnait sans relâche l'île Rouge dans sa deux chevaux, comprit des années plus tard la raison scientifique de cette production miraculeuse. Le riz a une croissance exponentielle. Les deux premières tiges portent jusqu'à 65% de la récolte et il est préférable qu'elles se développent une fois en place dans la rizière plutôt que d'être endommagées par l'épreuve de l'arrachage et du repiquage. Voilà pour le premier facteur. Et l'eau dans tout ça ? Le juste est nécessaire. Le riz n'est pas une plante aquatique et le compost naturel est suffisant à son amendement. Le système de riziculture intensive, patrimoine de l'humanité, s'est propagé grâce aux bouches à oreilles dans plus de 30 pays sans être encore suffisamment relayé par les autorités de la coopération internationale. Le père jésuite, écologiste avant l'heure, tenait à démontrer aux promoteurs de l'industrie chimique qu'il était possible d'obtenir d'excellents rendements intensifs de façon naturelle. Je voudrais remercier ici Corinne Lalot, journaliste de télévision qui m'a fait découvrir cet homme fertile. Elle participe avec passion à la diffusion du SRI que lui a fait connaître l'autre grand de l'agriculture biologique, j'ai nommé Philippe Desbrosses, que nous soutenons dans l'injustice qu'il vit aujourd'hui. Corinne a parcouru avec sa caméra le monde entier et a vu des paysans souffrir de la faim et d'autres qui, grâce au SRI, vivent mieux. Dans la vie, il y a deux catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et qui se disent pourquoi pas. À mardi prochain.
Merci Serge Roux. Ainsi se termine pour aujourd'hui votre magazine de l'environnement. Nous recevrons demain en première partie Pascal Oesting, le directeur de Greenpeace France, et notre dossier sera consacré au dernier rapport du groupe international d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, avec son vice-président, le climatologue Jean Jouzel.
À demain, même heure, même planète.